Bonjour Jean-Pierre Coff.
Bonjour.
Bienvenue chez Mola.
Merci.
Bienvenue dans votre Sud-Ouest. Enfin, on s'accapare peut-être votre présence en Sud-Ouest, mais c'est vrai que le Sud-Ouest vous doit beaucoup, sa réputation gastronomique, mais comme bien d'autres provinces françaises, on ne va pas en être jaloux. Donc vous êtes un habitué des éditeurs et des libraires. On découvre aussi dans votre dernier livre que vous êtes bibliophile, mais on fait beaucoup d'autres découvertes. Et il faut dire que même si vous avez publié des dizaines et des dizaines d'ouvrages, celui-ci est spécial et tout à fait unique. Jean-Pierre Coff, Une vie de Coff, publié chez Stock. Et vous préfacez également tout récemment un livre lui aussi très spécial dont vous allez nous parler aussi. Le livre de Christine Valette-Pariente, préfacé donc par Jean-Pierre Coff, intitulé « Ma cuisine du Sud-Ouest » chez Flammarion. Donc voilà deux nouveaux ouvrages. Et c'est surtout, bien sûr, Une vie de Coff qui va nous faire bavarder ce soir avec vous, Jean-Pierre
Coff. Si vous permettez, on va régler le problème de celui-là.
Volontiers.
Je connaissais Christine Parienté, qui était la propriétaire de Trolon-Mondeau, premier grand cru classé de Saint-Émilion. Je l'ai connue alors que le domaine n'avait ni la notoriété ni le classement qu'il a maintenant. Et j'ai vu son travail pendant une trentaine d'années pour défendre son vignoble, son terroir, sa propriété avec un acharnement extraordinaire. Et cette femme peignait, il y a d'ailleurs eu des expositions, enfin une exposition en tout cas à Bordeaux, elle a laissé une œuvre picturale considérable que j'ai vue ce matin, je dois dire à mon grand étonnement, parce que figurez-vous qu'elle m'a envoyé le manuscrit avec les dessins, que j'ai été extrêmement ému par ce livre qui pourrait ne passer que pour un livre de cuisine, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire d'une femme à travers un domaine et l'histoire d'une maîtresse de maison. Et quand on dit château, on s'imagine toujours une cuisine très aristocratique, etc., alors qu'elle cuisinait merveilleusement bien et qu'elle les réceptions chez elle, quand je dis les réceptions, c'était 6-8 copains autour d'une table, était d'une simplicité, d'une qualité de goût rare. Et quand ce livre m'a été adressé, donc par elle, je l'ai adressé à Flammarion en disant « C'est un livre pour vous, Flammarion qui est mon éditeur ». Et ils l'ont accepté. Et le contrat a été signé un mardi. Et le juge, elle est venue à Paris. Elle était comme une femme qui avait subi plusieurs années de chimio, elle était marquée, mais très jolie, elle était radieuse, heureuse que ce livre paraisse dans une maison prestigieuse. Et jeudi, j'apprenais sa mort. Donc le livre est sorti après qu'elle ait disparu. Donc c'est trois filles et son mari, Xavier Parienté, m'ont demandé d'écrire la préface, que j'ai fait volontiers, mais avec beaucoup d'émotion. Et hier soir, j'étais à Trolon-Mondeau, où j'ai passé une nuit et une matinée à voir son travail et à voir surtout ce qui restait de son domaine. Et j'ai demandé à tous les libraires que je remercie, lors de ma tournée de promotion de mon livre de mémoire, j'ai demandé qu'il n'y ait qu'un seul livre, c'est celui-là, parce que je voulais quelque part lui rendre hommage, parce que c'était une femme remarquable. Voilà, on n'en parle plus de ce livre-là, mais c'est un livre. Enfin, je pense qu'il est il a un mauvais titre. Hein, c'était ni elle ni moi qui l'avons choisi. Elle avait choisi elle voulait un titre qui s'apparente aux Belles Perdrix. Je ne sais pas si l'association des Belles Perdrix dit quelque chose à quelqu'un. Il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, il y avait une association de femmes bordelaises qui avait monté une association qui était l'équivalent du Club des 100, si vous voulez. C'était pour dire, ben, les hommes sont toujours en train de se réunir et de faire des gueuletons et picoler, et nous, pourquoi pas. Et alors, cette association a disparu, et Christine avait conservé un souvenir de cette association qui s'appelait Les Belles Perdrix. Et d'ailleurs, le restaurant de Trolomondo, qui est un formidable restaurant que je vous conseille, dans un endroit magnifique, s'appelle Les Belles Perdrix. Donc voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce livre et sur cette dame pour laquelle Merci. J'avais beaucoup d'affection.
Merci beaucoup. Et je pense que cet hommage, justement, donne tout à fait le ton de ce que vous montrez ou vous révélez sur vous-même dans vos mémoires, Une vie de Koff. Il y a à la fois beaucoup de justesse, beaucoup de concision aussi, parce que cette préface est très courte, mais en fait, en une page, on a exactement saisi le lien qui vous attache à cette personne et à son travail et à son œuvre même. Donc, on retrouve également cette justesse dans vos mémoires et aussi cette émotion, en fait, qui est tout le temps, ou presque tout le temps, sous-jacente, comme on va le voir. Donc, bien sûr, tout le monde connaît Jean-Pierre Koff. Qui ne connaît pas l'homme de télévision, qui ne connaît pas l'auteur de guides pour faire son marché, de livres de recettes, de pamphlets contre la malbouffe, de radio, etc. Mais qui connaît vraiment Jean-Pierre Koff. Et vraiment, dans ce livre, Une vie de Koff, on pourrait dire c'est tout Koff si le titre n'était pas déjà pris, mais on apprend vraiment beaucoup de choses et on voit l'homme derrière une sorte de masque social. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on revit une époque, hein, notamment quand on a un certain âge. On revit les années 60, les années 70, les années 80, 90. Et même quelquefois, on se dit, ah tiens, moi, ce jour-là, qu'est-ce que je faisais? Parce que vous êtes très, très précis sur vos dates. Et donc, on a l'impression d'un parcours de vie. Mais dites-nous d'abord, pourquoi ce livre maintenant?
Parce que, au sont des circonstances, d'abord parce que j'ai 77 ans, qu'on peut, à 77 ans, faire le point sur les pratiquement 80 ans qui se sont déroulés, ce qu'on a traîné derrière soi. Et puis, parce qu'on m'a proposé d'écrire un livre sur moi. Et je trouvais ça extrêmement outrecuidant, prétentieux. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il y aurait un livre sur moi? Je veux dire, il n'y avait pas franchement de raison. Et après, on m'a dit, oui, mais si on l'écrivait à deux mains, alors, j'ai un collaborateur, donc qui a fait d'ailleurs la postface de ce livre, qui est venu chez moi avec un magnétoscope, et un magnétophone, je dirais. Autant la radio ne me fait pas peur, j'ai pas peur d'un micro, autant l'intimité du petit objet qui est le magnétophone, m'intimide, enfin je sais pas pourquoi j'ai un drôle d'appréhension en face de cet outil. Et quand on me posait des questions sur ma vie, je me suis rendu compte en relisant ce que j'avais dit que j'étais en train de raconter des histoires et que j'étais en train de faire une jolie vie et que c'était pas la mienne du tout. Et donc on a déchiré tout ce qu'on avait fait. Et puis un jour donc le projet a été abandonné, et puis j'étais chez moi dans ma bibliothèque et tout à coup j'ai écrit « Je suis né le 24 mars 38 ». Et je me suis dit, et si je commençais comme ça, effectivement, le livre commence comme ça, et à partir de là, ben, j'ai défilé toute l'histoire. Alors, le problème c'était, est-ce que... Après avoir écrit cette première phrase, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je raconte. Est-ce que je raconte ma vie de A à Z en entier? Est-ce que je commence à me la raconter en disant que tout était merveilleux, que tous les gens qui m'entouraient étaient précieux, charmants, utiles, bienveillants? Ou bien est-ce que finalement je vais dire la vérité, que un tel était un con, que c'était mon sentiment et que je le ressens? Que ça n'a pas toujours été drôle, que, en fait, si on écrit ses mémoires, je repensais à, en écrivant aux mémoires de Jean-Claude Brialy, dont dans son premier tome de mémoires, Il racontait comme un fait d'armes extraordinaire qu'il avait couché avec Yabar Iraner. Et toutes ses aventures avec des garçons, il les avait oubliées. Et il les avait tues. Et je me dis, mais non, une vie, c'est pas ça. On va pas raconter que ce qui a l'air d'être prestigieux. C'est vrai que faire l'amour avec Yabar Iraner, ça devait être extrêmement agréable. Enfin, tout, je sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça. Mais sûrement que c'était assez émouvant d'être dans le lit et de pouvoir caresser une femme aussi belle. Mais finalement, comme ce n'était pas sa vie et que c'était un accident dans sa vie, je me suis dit non, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais écrire ma vie avec tous les emmerdes que j'ai eus. À qui ça servira, j'en sais rien. Si des mômes lisent ça, ben, ils se rendront compte qu'il n'y a pas de fatalité finalement à naître dans une famille extrêmement modeste. Où on avait à peine de l'eau et de l'électricité, mais où c'était une vie excessivement modeste. Ma grand-mère était cuisinière dans une maison bourgeoise. Mon autre grand-père, pas le mari de cette grand-mère-là, mais mon autre grand-père était maraîcher, donc on n'était pas dans le luxe. On était à peine dans le... Enfin, on n'était pas dans le confort non plus. On survivait, disons. La guerre est arrivée. Donc, la guerre, quand on découvre la guerre quand on a 4-5 ans, c'est pas comme quand on la découvre à la télévision maintenant, où vous voyez, où les horreurs sont en partie camouflées et où il y a l'écran de la télé qui n'impacte pas comme quand vous êtes gamin et que vous êtes sur le pas de la porte et que vous voyez des tanks passer. Vous ne savez pas ce que c'est parce que vous n'en avez jamais vu. En 38, en 40, quand on jouait aux soldats avec des copains, c'était avec des bouts de bois qui étaient supposés des épées. Et on jouait pas à la guerre, on jouait aux mousquetaires, aux mousquetaires, on jouait à l'épée, mais on jouait pas à la guerre avec des boum-boum, les mitrailleuses ou des trucs comme ça, comme jouaient les gosses. Mais ça n'en était pas moins inquiétant. Et quand tout à coup, vous avez une petite ville de province, comme celle dont je suis issu, c'est-à-dire Lunéville, où tout à coup la ville se transforme entièrement. C'est-à-dire que vous aviez des grands panneaux qui étaient dans une langue qu'on ne connaissait pas, des types qui se baladaient dans la rue avec des costumes tout noirs et qui hurlaient « Heil Hitler ». On ne sait pas ce que c'est quand on a 5 ans ou 6 ans. Et ça, c'était bouleversant. Et puis, il a fallu s'en aller parce que tout le monde fuyait. Vous voyez des gens qui passent, vous découvrez ce que c'est que l'exode. Parce qu'on en parle maintenant, mais quand il y avait des gens sur des charrettes qui passaient avec des valises, des sacs, n'importe quoi. Et moi, j'étais là, mon enfance, c'était ça. Et quand les gens s'arrêtaient en disant « Vous voulez pas nous donner un bout de pain ?» et qu'on n'avait pas un bout de pain à leur donner. Et ils étaient prêts à échanger n'importe quoi contre un bout de pain, parce qu'ils crevaient de faim et qu'ils espéraient que quelqu'un allait leur offrir un abri pour que le cheval puisse bouffer, parce qu'il y avait des automobiles, mais c'était rare quand même. Donc, si vous voulez, j'ai voulu finalement raconter tout ça en disant ben, voilà, je suis né là, dans cet endroit-là, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai souffert. Enfin, souffert. Non, je ne peux pas dire que j'ai souffert. C'est rétroactif, la souffrance, parce qu'on voyait ça, on était étonnés, mais la souffrance, elle venait de l'angoisse que les parents pouvaient avoir. Pas mon père, puisque mon père a été tué en 40, mais ma mère, ma grand-mère, enfin, les gens qu'on fréquentait étaient dans la panique de voir tout ça. Et cette sensation-là de plus avoir de protection, si vous voulez. Eh ben, c'est une sensation très douloureuse, mais dont on se remet, effectivement, quand on a la chance de s'en sortir, évidemment.
On voit bien, effectivement, que le ton, c'est la franchise, c'est aussi la sobriété. Et quand vous dites tout à l'heure, on a déchiré la première version parce que j'étais en train d'enjoliver ma vie, donc l'idée c'était de tout dire, y compris les emmerdes. Et ce pacte narratif, vous le rappelez plusieurs fois, notamment au chapitre 18, quand vous dites être complet, c'est mon projet. être complet, donc ne pas laisser dans l'ombre des choses qui pourraient être moins flatteuses, moins jolies, moins sincères.
Et parce qu'une vie, ce n'est pas fait que de réussite, de confort, de rencontres miraculeuses, et de, une vie, c'est fait aussi de haut, de bas. Mais quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je m'assume et que je fasse ce que j'avais envie de faire et que j'ai commencé à ouvrir des restaurants, effectivement, là, j'étais un personnage, mais j'étais un personnage dans mes restaurants. Mais quand j'ai commencé à faire de la télévision, j'ai eu peur tout le temps. Et là encore, c'est peut-être en fait la vraie raison pour laquelle j'ai fait Steam, c'est qu'on s'imagine que je n'étais qu'un gugus à peu près cultivé, avec des convictions certes, et que je les défendais avec acharnement, mais que j'avais un nez rouge et que mon seul objectif dans la vie, c'était de faire rigoler les gens, de dire des conneries comme je peux le faire quand je vais aux Grosses Têtes ou comme je le faisais avec Michel Drucker. Mais pourquoi ? Parce que je pensais que faire de la pédagogie en faisant de l'humour, ça pouvait être plus fructueux et plus utile pour les gens qui regardaient que si j'avais été simplement une sorte de professeur de légumes, de viande, de cuisine ou de trucs comme ça, ce qui aurait d'abord emmerdé les gens et moi aussi par la même occasion. Je trouvais que c'était plus amusant d'essayer de faire un peu d'humour autour de ça. Mais voilà pourquoi moi je ne veux pas qu'on s'imagine que je ne suis qu'un gugus, parce que ce n'est pas ça ma vie.
Oui, il y a beaucoup d'épaisseur en fait dans ce livre. D'abord parce qu'il y a plusieurs vies. Et qu'on ne s'ennuie jamais à la lecture. C'est très mouvementé, vous avez eu un parcours très mouvementé et même d'une richesse vertigineuse presque. Enfin, vous faites plein de choses à la fois. On vous voit aller de succès en faillite, de faillite en succès, et puis multiplier aussi les métiers, les domaines, quelquefois en même temps. Et puis, il y a des pauses qui sont souvent des pauses d'angoisse, mais qui ne durent pas longtemps. Et vous vous demandez si ce n'est pas de la dispersion et si votre vie pourrait avoir une lecture peut-être plus simple ou plus profonde encore. On voit que cette question traverse le livre. Et puis aussi ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la pédagogie, passer un message. Est-ce que ce livre n'est pas aussi justement dessiné comme l'émission que vous avez faite sur France 3 pour les enfants ? Et dont vous parlez remarquablement, à transmettre aux enfants, aux jeunes, l'idée que tout est possible.
C'est quand j'ai fait de la télé pour la première fois, alors que j'avais aucune envie d'en faire, et que c'est vraiment Jean Carmet qui était mon ami le plus proche, le plus intime, qui me disait « mais si, il faut en faire, ne mets pas tes œufs dans le même panier, c'est vachement important, etc. » Donc, il m'a traîné là-bas faire des essais. Et je me suis rendu compte que, et je n'ai pas changé d'avis finalement, à la télévision, c'est beaucoup de paraître. Et c'est pourquoi je dis actuellement, on vit une époque moléculaire, comme la cuisine. C'est du vent, un souffle comme ça, on fait de la fumée ou on met n'importe quoi à partir d'azote, des trucs qui montent comme ça. Et dès l'instant où on a bousculé ça et que ça s'envole, on est dans un trou, il n'y a plus de contenu. Or, moi, je n'ai jamais voulu faire ça. J'ai compris, sans le vouloir d'ailleurs, c'est quand je suis arrivé à Canal, le thème de l'essai, c'était les coquilles Saint-Jacques. Et j'ai habité pendant très longtemps dans un sixième étage, sans ascenseur. Et je suis allé chez le poissonnier le matin, avant d'aller à Canal, et je lui ai dit, vous voulez pas me décoquiller 12 coquilles, s'il vous plaît ? Il m'a dit oui, il me les a ouvertes, décoquillées, il me les a mis dans un sac en plastique, je les ai mis dans ma poche. Et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, je me suis fait engueuler en disant, eh ben alors, elles sont où les coquilles ? Et quand je suis arrivé sur le plateau, qui était trois fois grand comme ça, il n'y avait que des coquilles. Mais il y avait des projecteurs. Les coquilles étaient ouvertes comme ça et bâillaient à la mort. Je me suis dit qu'ils sont cons. Il y a bien quelqu'un qui va, il y a bien un téléspectateur qui va penser qu'elles sont en train de crever, qu'elles sont plus comestibles, ces Saint-Jacques. Et quand mon tour est arrivé, que Denisot m'a dit, mais alors vous, vous n'apportez pas de coquilles. Ah, mais je me suis dit, attends. J'ai dit, si, elles sont là. Michel, j'habite au 6e étage sans ascenseur. Je ne vais pas monter 15 kilos de coquilles pleines pour redescendre 13 kilos de coquilles vides. Pas con à ce point-là. Moi, je ne veux pas m'ouvrir la main en décoquillant mes coquilles Saint-Jacques. Je dis au poissonnier, c'est son métier. Décoquillez-moi des Saint-Jacques, j'en ai besoin d'un kilo, elles sont là. Elles sont dans ma poche, je monte chez moi. Je me suis dit, mais c'est du bon sens qu'il faut installer chaque fois que je vais être confronté à ce genre de problème. Et après, c'était, quel est le menu ? Le menu, j'ai pas de menu, ça dépend des circonstances. Si je veux séduire quelqu'un et que j'ai envie d'être à table, parce que la séduction, c'est pas dans une cuisine que ça se passe, c'est à table. Donc là, je suis avec une jeune fille, j'ai envie de la séduire, je vais faire des coquilles Saint-Jacques froides, simplement comme ça, posées, glacées, un peu de poivre et puis un filet d'huile d'olive. Si c'est ma femme qui reçoit son patron, je vais faire différemment. Je peux aller en cuisine, c'est elle qui doit être la vedette. Je n'ai fait que ça, essayer de faire des trucs de bon sens et, enfin, auxquels tout le monde peut se référer parce que je n'ai pas inventé la lune, mais c'est vrai que c'est très con de monter 15 coquilles pleines pour redescendre 13 kilos de vide, hein, franchement. Et donc, c'est comme ça, si vous voulez, qu'à partir de cette constatation que il fallait essayer de ramener des gens qui avaient un peu perdu la tête, parce qu'il faut dire que la télé, c'est un truc extrêmement dangereux. C'est comme la réussite. C'est très, très dangereux. Parce qu'à un moment donné, vous ne faites plus rien. On a tout qui vous tombe dans le bec. C'est-à-dire, vous avez un assistant qui vient vous chercher, vous ne conduisez plus votre voiture, vous avez quelqu'un qui vient vous ouvrir la portière, vous avez quelqu'un qui vous fait ceci, vous avez quelqu'un qui vous fait vos courses, ce que je n'ai jamais pu faire, au même titre que ce qui a été tout à fait fondamental dans mon métier à la télévision, c'est que je me suis engueulé tout de suite avec de grève et surtout avec Lescure en disant « Mais moi, je veux qu'on me rembourse mes coquilles Saint-Jacques. » Il m'a dit « Mais pourquoi ça ?» Je dis « Parce que je les ai payées et que moi, je ne viens pas à la télé avec des produits et que je vais acheter. Et quelle est ma crédibilité si je n'achète pas ? Donc moi, je vais là, j'achète une bouteille d'Evian, je dis l'eau d'Evian, je lis « Voilà ce que c'est que l'eau d'Evian ». Elle est bonne ou elle n'est pas bonne parce qu'elle a tel pourcentage de tels minéraux. Et je peux dire la vérité parce que je l'ai payé. Si la demi-bouteille d'Evian, je l'ai eu gratuitement, je n'ai pas de raison de dire quoi que ce soit. Je dis oui, c'est une bouteille d'Evian. Puis voilà, on arrête ça. On ne fait pas de pub spécialement pour ça. Et là, ça a duré au moins 2 mois où personne ne voulait me payer mes coquilles. Et j'ai dit, mais moi, je ne ferai pas de télé si on ne me rembourse pas mes coquilles. Et toute ma vie, y compris chez Drucker, où j'ai toujours tout fait payer, y compris mes voyages, tout, je n'ai jamais été gratuitement nulle part, ni dans un hôtel, ni dans un restaurant, parce que c'est, il va de la crédibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire après qu'on ne vous avait pas payé ? Un critique gastronomique qui va manger dans un restaurant, belle perdrie, il y a trop long mondo. Il sort, il laisse un billet de 5 euros et il considère qu'il a fait son travail parce qu'il va faire un papier. Vous croyez qu'il peut honnêtement, en se regardant dans la glace tous les matins, écrire un papier merdeux sur ce restaurant ? Pas du tout, puisqu'il l'a pas payé. Il ne sait même pas combien ça coûte. Il ne peut pas dire tel plat, c'est tant. Et ça, je suis contre ça. Et j'ai toujours été contre ça. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai été respecté. Quand on merdait, j'avais des arguments pour dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'achète, je paye. Si je dis, ce livre-là, il n'est pas bien, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas payé encore. Quand j'aurai payé, que je l'aurai lu, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Là, ce n'est pas plus compliqué que ça. La vie que j'ai menée, j'ai toujours été voulu être, comment dire, réglo honnête. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas me faire de reproches d'avoir profité de la situation. Voilà, c'est ça. C'est un peu de morale, un peu, de la morale, de l'éthique et du respect des autres. Ça, avec échanger, partager, transmettre, c'est ça les clés de mon existence.
Et quand on lit votre livre, on cherche bien sûr les clés de ce qui vous a construit, de ce qui vous a fait ce que vous êtes, donc cet homme d'honnêteté, de vérité, d'absence de peur ou d'être influencé par quoi que ce soit. On trouve votre grand-père Victor, on trouve votre grand-mère Briquet, on trouve aussi la famille Fleury, qui vous a sans doute transmis ses valeurs et qui du coup vous a armé pour aborder des mondes aussi dangereux, comme vous dites, que la télé, même si dangereux parce qu'on a tout au cuit, mais vous dites aussi quand même, et ça a un côté western, il y a des règlements de compte à la télé.
Hein. Ah non, mais c'est pas un monde... Enfin, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un monde fréquentable pour qui n'y travaille pas, et même pour les gens qui y travaillent, c'est un monde factice, pas très passionnant, où on va pas dans le fond, on est dans le paraître sans arrêt. Non, il y a plus beaucoup d'émissions où on cherche à essayer de savoir la vérité. Même les émissions politiques, je veux dire, c'est truqué. On fait venir des gens à un moment donné parce qu'on en a besoin. À un autre moment, c'est donnant-donnant. T'as besoin, bon, ben viens. Mais quand j'aurai besoin, tu me renvoies l'ascenseur. Oui, tout est comme ça. C'est pas un métier de... Comment dire, c'est pas un métier simple, quoi. C'est pas un métier où il y a des données précises, des choses qui doivent être respectées parce qu'il y a une espèce d'éthique, il n'y a rien. C'est du paraître, il n'y a pas de fond, c'est de la forme. Et ça, ça m'emmerde un peu.
Malgré tout, il y a l'audience et je crois que...
Ah oui, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est, voilà. Attendez, c'est entre ce qu'on a envie de faire et puis ce que les gens ont envie de voir. Moi, je ne suis pas certain que même les 5 millions de personnes qui regardent Top Chef ou, je ne sais pas, ces émissions de cuisine, soient satisfaits de regarder ça. Je me dis que si on faisait la même émission, mais qu'on leur apprenne plus que ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire à être des copistes et à refaire une quiche Lorraine comme le dernier l'a fait, c'est-à-dire ne pas raconter l'histoire de la quiche Lorraine, comment elle a été inventée, que jamais dans la quiche Lorraine il doit y avoir de fromage, que c'est contraire au principe, à la règle de cette recette. Ça serait sûrement plus passionnant si, au lieu de dire comment on fait un fraisier, on racontait l'histoire de la fraise avec Monsieur Fraisier qui a réellement existé, la traversée du Chili à Marseille, puisqu'il a le bateau a accosté à Marseille, où il avait simplement gardé 5 plants de fraises. Tous les autres plants avaient crevé sur le bateau. Parce que sur un bateau, quand il tombe de l'eau et il n'en est pas tombé pendant toute la traversée, l'eau, elle est pour les humains, elle n'est pas pour arroser des plantes. Donc ce monsieur Fraisier qui avait rapporté tout ça, qui n'était pas du tout un botaniste, mais qui était un mec curieux au 17e, très intrigué, il voit des gros fruits blancs qui ressemblent à des tout petits trucs rouges comme on avait à l'époque. C'est parce qu'il n'y avait pas de grosses fraises rouges au temps de Louis XIV, et qui ramène ça en se disant « je vais donner ça à mon copain botaniste Tournefort ou Jussieu ben ». Moi, je trouve que c'est mieux comme émission de faire ça que de dire « regardez comment on fait un biscuit, comment on fait un fraisier ». Mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais je me demande si finalement le public ne serait pas plus intéressé de voir comment on ramasse du sel pour ceux qui ne le savent pas, ou comment la fraise est parvenue sur nos tables par un monsieur qui était d'ailleurs de Chambéry et pas du tout Plougastel, contrairement à ce qu'on raconte. Oui, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. La quiche Lorraine, c'est formidable. C'était à bout de pain avant. Et puis, c'est devenu un gâteau par la suite. Mais là-dessus, il y a l'histoire de France, parce que Stanislas Leszczynski, qui était le gendre de Louis XV, on lui a donné ce petit bout de Lorraine pour remplacer son royaume en Pologne. Et à partir de là, il était gourmand, il a développé toute la cuisine inventive française est arrivée à partir de Lorraine avec la fille de Stanislas, Marie Zelenska, qui a épousé Louis XV et qui a transféré toute cette cuisine inventive originale. Les desserts, c'était cette horreur qui était... Et tout ça, moi, ça me passionne plus que d'apprendre à faire une génoise, coller quatre bouts de, enfin, une couche de crème et de mettre des fraises coupées en deux dessus et de refermer, puis de dire, voilà, c'est ça un fraisier. Enfin, mais ça ne concerne que moi. Et je pense que ça peut concerner aussi le public, parce que c'est de la belle histoire, c'est de l'histoire, c'est drôle en plus comme histoire, c'est passionnant. L'histoire de la pomme de terre, c'est une histoire géniale. Et moi, ça m'amuse. Ça. Et c'est ça, je pense que les gens qui apprendraient ça seraient quelque part plus riches, plus cultivés, meilleurs, que de savoir faire simplement un fraisier, comme le fait M. Dupont, qui est pâtissier là au coin de la rue, M. Durand, qui est pâtissier à l'autre coin, c'est-à-dire d'une banalité à pleurer, quoi, c'est tout.
Oui, et je crois que les gens ne s'y trompent pas, et que justement, il vous est arrivé, dans ce western de la télé, de vous appuyer, de pouvoir vous appuyer sur la demande du public et le fait que les gens appréciaient ce que vous leur proposiez, qui était différent, justement, de cette télé factice.
Surtout, j'ai eu de la veine. Enfin, oui, c'est de la chance et du courage. C'est que dès l'instant où on me faisait chier, je leur ai dit merde et je suis parti.
Oui, quand vous avez préféré... Déjà, quand vous préfériez changer de patron que de costumier, enfin, que de
oui,
chemisier.
Parce que... Mais c'est ça, la... Alors, vous allez dire, ce que je raconte, c'était quand j'avais 25, 30 ou 40 ans, c'est-à-dire il y a déjà une pelletée de temps par rapport à aujourd'hui où j'en ai 77. Mais moi, j'étais très, très bien payé dans un établissement qui s'appelait Bussière. C'était de la photogravure. Et j'avais été dans le papier, chez Job, puisque c'était le premier employeur qui m'avait engagé. Et un samedi matin, mon patron me demande de venir le voir dans son bureau. J'arrive et il me dit, vous faites faire vos chemises où? Ben, je lui dis... comme vous d'ailleurs sûrement, il dit des soirées sur les Champs-Élysées. Il me dit oui, c'est exact. Est-ce que je peux vous demander de changer de chemisier? Je lui dis non, monsieur. Je vais prendre un morceau de papier, je vous donne ma démission. C'est plus facile de changer de patron que de changer de chemisier. Et je suis parti dans la minute parce que j'ai pas envie de me faire emmerder. On me dit monsieur, vous faites pas bien votre travail. Voilà comment je considère qu'il faut que vous le fassiez. Je veux bien accepter ça. C'est normal, on discute, on est un patron, il faut. Mais pas sur ma façon dont je m'habille. Ça, c'est inadmissible. Un pauvre Alain de Greffe qui vient de mourir, qui m'a manqué de parole, il m'a donné sa parole sans contrat, parce que ça existe aussi à la télé, il ne faut pas dire que tout est... Moi, j'ai travaillé 10 ans chez Drucker, je n'ai jamais eu un contrat avec lui. C'était parole donnée, c'était parole d'or. Donc ça existe quand même. C'est pas, tout n'est pas noir dans ce métier-là. C'est vraiment... Il y a des gens qui ne se respectent pas. Et j'étais à Canal. Donc Canal, vous voyez, j'étais tout au début avec les nuls de la rue. Et moi, on était les stars de Canal. On représentait quelque chose. Et j'avais envie de faire une émission pour les enfants, toujours mon dada, donc c'était il y a 50 ans de ça. Je voulais faire une émission pour les enfants, et je l'ai faite, qui s'appelait « Comment c'est fait ?», c'est-à-dire ça consistait à emmener des enfants, 4, entre 8 et 10, 11 ans, 12 ans, dans un endroit où ils allaient voir comment les choses évoluaient, comment ça naissait, comment ça sortait de terre, comment... Voilà. Et... L'émission est, et je la propose d'abord à Canal, puisque j'étais employé de Canal, et il me dit non, non, et assez méprisant, il me dit non, c'est bon pour la 3, ça, mais c'est pas pour nous du tout. Et il se trouve que je vais sur la 3 et qu'ils acceptent le programme. Donc je dis, la 3 accepte, oui, ben vas-y, fais donc ça. Donc je suis allé sur la 3, mais il se trouve que ça a eu du succès sur la 3. C'était un truc très con, j'emmenais des enfants. Prenez l'exemple de Guérande, hein, où il y a les Salins, etc. Je les emmène là. Et il y avait un monsieur qui était avec son râteau, un saunier, qui était en train de tirer du sable. Parce que c'était au mois de septembre, on commençait la saison, il faisait chaud. Et là, tout s'évapore et la mer, l'eau s'évapore et il reste du sel. Et il y avait un tas tout blanc. Et les mômes s'approchent et je leur dis, ben goûtez, ça se mange ça. Et ils goûtent, c'est salé. Et ils comprennent tout de suite que le sel, ça vient de la mer. Vous voyez, la mécanique de la pédagogie que je voulais faire, et cette émission, il se trouve, elle a du succès. Et au bout d'un an de grève, donc, me dit, il faut arrêter cette émission-là. Et je lui dis, c'est pas possible, tu m'as donné ta parole, et moi, j'ai encore 3 mois ou 6 mois à faire, je ne peux pas m'en aller. J'ai des tournages, et ils sont prévus. Tu dois arrêter. Et j'ai dit, écoute, puisque c'est comme ça, je vais quitter Canal. Il n'y croyait pas. J'ai donné ma démission. Parole manquée. Pas de discussion. Et alors, je ne m'attribue aucun mérite à ça. Mais j'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais toléré qu'on manque à une parole donnée, quelles qu'en soient les conditions. Parce que quand je suis parti de Canal, j'avais une pauvre émission qui était hebdomadaire, alors qu'à Canal, j'étais tous les jours. Que ce n'était pas le même combat sur le plan économique, mais moi, j'en avais rien à foutre. Je ne voulais pas qu'on manque à la parole donnée. Et je ne voulais pas abandonner cette émission qui me plaisait. Et puis le bol, la chance, toujours cette chance inouïe, c'est que là, Hervé Bourges, qui était le patron de la 2, me demande si je veux bien venir à Canal, quand la nouvelle s'est répandue que je quittais Canal. Et je suis allé sur la 2 à ce moment-là. Mais j'ai toujours pris des décisions qui allaient entraîner des bouleversements dans ma vie sans savoir que j'allais pouvoir me remonter, me redresser, me refaire. Jamais. Je trouvais que c'était... Ben, il ne fallait pas attendre d'avoir trouvé une solution pour pouvoir partir. Il fallait partir et après essayer de trouver une solution. Parce que ça vous met dans une situation d'angoisse et d'obligation de vous bouger. Parce que sinon, si vous dites « je donne ma démission », puis après, enfin, je vais attendre d'avoir trouvé du boulot, puis après je donne ma démission, ça ne fait pas grand-chose. Moi, je fais le contraire. Parce que ça vous oblige à tout de suite. Qu'est-ce que je fais ?
Oui, vous avez comme ça vécu des choses très tranchées et montré votre intransigeance et aussi du courage, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous le répétez, là, le mot « chance » revient très souvent dans vos 21 chapitres.
C'est vrai.
On voit effectivement que par des opportunités que vous savez saisir, parce que la chance, je pense que... Bon, je ne sais pas si on est inégal devant la chance, mais en tout cas, on est inégal à savoir la saisir ou pas.
On n'est peut-être pas inégal devant la chance. On a tous sûrement une capacité à être... enveloppé par de la chance. Mais à un moment donné, on ne sait pas si on peut la saisir ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le courage de sauter dessus. Et moi, j'ai eu du bol. Mais je savais que c'était ma survie. Je savais que j'étais pas cultivé, pas instruit, rien du tout, et qu'il fallait absolument que j'apprenne. Et j'ai eu la chance d'avoir Carrière, à qui j'ai dit « Est-ce que tu m'apprendrais pas à écrire, par extraordinaire ?» Il a dit oui. Donc j'ai eu quand même un des meilleurs professeurs qu'on puisse imaginer. Il me corrigeait mes livres au début. Et ça, c'était de la chance. Tomber sur Carmen, c'était de la chance, parce que c'est un type qui m'a appris à vivre, à profiter de la vie, à savoir m'en amuser, à être curieux des autres. Carmet était un type formidable, c'était un mec qui pouvait aller dans un bistrot. C'était pas le poivreau dont on se gargarait, c'était un type qui avait il picolait comme tout le monde, mais il se mettait au coin d'un bar comme ça, il attendait, il guettait. C'était un guetteur, un type qui attendait le moment où un con allait s'exprimer. Et dès qu'il avait chopé le type, il le lâchait plus. Il est après de lui, et là, il en tirait chaque fois quelque chose. Ça l'aidait pour un personnage, ça l'aidait pour une anecdote, pour n'importe quoi. Mais il avait cette curiosité d'être toujours à l'affût des gens. Et moi, je ne fais pas la même chose, mais j'aime échanger avec les gens. Je ne suis pas obligé de venir ici signer des livres, mais ça me fait infiniment plaisir de vous rencontrer. Je ne dis pas ça par politesse ou flatterie, mais la rencontre avec des gens qui vous connaissent, qui vous lisent, qui vous, peu importe, qui vous voient, C'est très important parce qu'on en apprend, on apprend toujours quelque chose des autres. C'est pourquoi l'échange est essentiel.
Il y a effectivement dans tout votre livre et dans tout votre discours cette énergie et cette, ce goût de la vie. Ce goût de la vie qui est quand même à la source de tout votre parcours. Alors, vous avez parlé de la guerre tout à l'heure et aussi de l'absence de votre père, mort très très tôt, et que vous retournez dès l'Incipit, en fait, dès la première page, vous retournez ça en une chance, là aussi, ce qui est quand même courageux.
Non, c'est pas courageux, c'est courageux pour vous, parce que c'est vrai, dire mon père est mort à la guerre, quel bol. Oui, parce que j'ai appris plus, rétrospectif, j'ai appris plus tard. Mon père était coiffeur et mon père ne rêvait que d'une chose, c'est que je lui succède. Or, quand j'ai eu 15 ans et que j'ai appris ça, je me suis dit, quel bol qu'il soit mort, je serais coiffeur à Lunéville, quelle vie. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être coiffeur. Je n'ai rien contre les coiffeurs, bien que je ne sois pas un client bien fidèle, j'avais pas envie du tout d'être coiffeur. J'avais envie d'être acteur, ce qui n'a rien à voir. Donc... voilà, alors je dis oui, quelle chance, il est mort, ben oui, en plus de ça, je ne l'ai pas connu, donc mon jugement est, je suis né en 38, il était déjà à la guerre comme soldat, il est mort en 40, je dois avoir une photo, c'est tout ce qui est resté des archives de ma mère, une photo où je suis dans ses bras, il est habillé en militaire, et c'est tout ce que je sais de lui. Ma mère ne m'a jamais parlé de mon père, je n'en ai jamais entendu parler. Et puis, il faut dire aussi que dans ce livre, il y a une contre-histoire, si vous voulez. Pardon de dire ça, mais c'est qu'il y a, mon histoire, qu'on vient d'évoquer, et puis il y a mes rapports avec ma mère, qui ont été des rapports extrêmement compliqués. Parce que nous n'avons jamais réussi à parler. Et que c'était un silence absolu. Et que très vite, à l'âge de 7 ans, j'ai pris conscience que ma mère n'avait qu'une idée, c'était de se débarrasser de moi en me mettant dans un collège ou ailleurs, parce qu'elle avait rencontré un homme dont elle est tombée éperdument amoureuse. Et elle a été amoureuse toute sa vie de cet homme, puisqu'elle l'a accompagné jusqu'au moment où il est mort. Et cet homme était marié. Et c'était une ordure finie. Il a même divorcé pendant qu'il était l'amant de ma mère pour se remarier, non pas avec ma mère, mais avec une autre femme. Et ma mère, toujours amoureuse, a continué une relation avec lui alors qu'elle avait appris qu'il avait divorcé, qu'il s'était remarié. Donc, cette histoire-là, l'histoire de ma mère là-dedans, est un fil conducteur parallèle à ma vie parce que ça a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Je ne rêvais que d'avoir une maman avec laquelle j'aurais pu avoir un rapport un peu intime. Ça n'a jamais été le cas parce que chaque fois, je ne comprenais pas sa relation avec ce type. Ce type, alors qu'il se connaissait depuis 10 ans, 15 ans, ce type m'invite à déjeuner et me dit « Voilà, ta mère est partie en voyage et je voudrais te charger d'une mission, c'est que tu lui dises que je la quitte. » Comment ça, vous voulez que je dise à ma mère que vous... Mais c'est à vous de faire ça, c'est pas à moi. C'est vous qui vivez avec elle, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Oui, mais ta mère est encore jeune, elle va refaire sa vie, etc. Mais le problème n'est pas là, le problème est que vous êtes en train de la planter alors qu'elle a tout, sacrifié puisqu'elle a quitté sa ville, son boulot, etc., pour venir à Paris avec vous. Et là, maintenant, vous la plantez? Non, pas du tout. Oui, mais j'ai tout prévu. Je vais te laisser une télévision. J'ai dit, si vous croyez vous en tirer avec une télé, là, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Hein. Vous allez lui payer un appartement et vous allez faire en sorte qu'elle soit à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il n'est pas dit qu'elle trouve quelqu'un et qu'elle puisse refaire sa vie. Donc là, maintenant, c'est du sérieux. Sinon, moi, je vais voir votre femme. Et je vais lui raconter qui vous êtes comme mec. Alors là, il a pris la trouille, il a effectivement acheté un appartement, et un mois après, il était de nouveau, à quatre pattes, il était de nouveau et il s'était retrouvé, et tout allait très bien, et ma mère n'a jamais su qu'il voulait le quitter, parce que je ne lui en ai jamais parlé. Et il n'a jamais rien dit. Il a fait le malin en lui offrant un appartement et en croyant que là, tout allait bien se passer. Et jusqu'à la dernière minute, si vous voulez, ça a été comme ça, parce que elle m'a refait un nouveau coup. C'est qu'à un moment donné, il ne pouvait plus se voir parce qu'il était très, très malade. Il avait un cancer du pancréas, je crois. Enfin, je ne sais plus trop bien ce qu'il avait, mais il était vraiment... Il était mourant. Et ma mère m'a demandé de téléphoner chez lui où il y aurait une infirmière qui me répondrait pour me donner ses nouvelles. Et moi, je les transmettrais ensuite à ma mère. Et pendant presque un an, tous les vendredis matins, je téléphonais. Bonjour madame, comment va monsieur Deux? Et on me disait bien, moins bien. Puis petit à petit, on m'annonçait qu'il était, ça allait plus, il était dans le coma, il en était ressorti. Et puis un jour, on m'a dit, oh, je ne sais pas s'il fera la semaine, rappelez-moi mercredi. J'ai rappelé le mercredi. J'ai rappelé le jeudi et j'ai rappelé le vendredi, et le vendredi, il était mort. Donc il fallait que j'annonce en plus la nouvelle à ma mère. Et pendant un an, quand vous êtes en contact comme ça avec la mort et même avec des gens qui ne sont pas dans votre cœur, il y a une empathie qui se crée. Et je finissais par avoir presque de la peine que ce type soit en train de mourir. Et donc, je dis à cette dame qui était pour moi l'infirmière. Je lui dis, madame, mais vous devez être, vous êtes sans emploi, qu'est-ce que vous allez devenir? Et la dame me répond, mais moi, ça va très bien, c'est mon mari qui vient de mourir, c'est pas moi. Et je découvre que j'appelais depuis un an une dame dont je pensais être l'infirmière, alors qu'elle était en fait la femme du mec. Et elle me dit, vous pouvez dire à votre maman qu'elle peut venir à l'enterrement. Tout ça était d'une espèce de farce odieuse dont je me suis senti la victime tout le temps. Et surtout la personne qui avait été sacrifiée tout le temps, y compris là. Et là, j'ai été fâché très gravement avec ma mère pendant 2 ou 3 ans parce que je trouvais que là, ça avait été trop loin, que ça avait dépassé les limites. Puis finalement, on s'est réconcilié. Puis elle est décédée.
Oui, donc le fil de l'intime, effectivement, donne aussi une cohérence au livre, parce que si vous avez cette intransigeance, ce goût de la franchise, cette détestation du mensonge, on peut penser que ce n'est pas sans lien avec justement votre histoire avec votre mère et son conte.
Oui, parce que je l'appelle le conte dans le livre. Pas le con, hein, le conte, parce qu'il était effectivement, c'était un aristocrate et qui avait un titre nobiliaire, il était conte.
Alors, il y a bien des aspects qu'on n'a pas encore abordés, mais je voudrais simplement rappeler à quel point cette lecture est jubilatoire par l'humour et les règlements de compte aussi, quelquefois, que vous adressez à certaines stars du show business, et aussi par l'intime, par la sincérité, l'émotion qu'on peut rencontrer dans votre récit parfois. Et enfin, il est instructif parce que vous touchez à beaucoup de domaines professionnels, les papetiers, les restaurateurs, bien sûr, les hommes de radio, enfin plein d'univers professionnels qui ont fait partie de votre vie et que vous nous faites partager. Donc merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne lecture avec Une vie de Koff. Et nous sommes obligés de passer aux dédicaces à cause du temps qui passe.
Ah bah oui,
sans qu'on s'en aperçoive, tellement Jean-Pierre Koff est absolument fascinant.